Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une histoire extraordinaire aujourd'hui. L'histoire d'un agriculteur du Tarn, héritier de trois générations de paysans, qui pour sauver l'exploitation familiale décide de monter dans la ferme un cabaret. Une salle de spectacle, en plus des vaches, des tomates, du blé et de tout le reste. Et ce monsieur, il est là en face de moi. Bonjour David Comet.
Bonjour.
Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît aux éditions du Rocher. C'est un livre très riche, hein. Je ne pourrais en raconter qu'une toute petite partie. Et j'invite tous ceux qui veulent aller au-delà à le lire absolument. Le titre de ce livre est « Les folies fermières ». C'est le nom de votre ferme-auberge et de votre cabaret. J'en ai tiré peut-être l'une des plus belles histoires dont Ondelat raconte depuis 3 ans, avec accent, bien sûr. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazet, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au tout début de cette histoire, il y a des Italiens de la province de Trévise, Arcangelo et Maria Zanchetta, qui en novembre 1951 émigrent dans le sud de la France avec leurs malades 10 enfants et qui s'installent comme métayers dans un petit village du Tarn, Garrigues, à 30 km de Toulouse. C'est la première génération. Parmi les 10 enfants d'Arcangelo et de Maria, suivons le 7e, Attilio, deuxième génération. En 1954, il a 17 ans et il s'installe comme métayer, toujours, à Garrigues, sur une propriété de 17 hectares. 2 ans plus tard, au Vêpres, un dimanche après-midi, il rencontre Pierrette. Ils se fréquentent. 3 ans plus tard, ils se marient. Attilio et Pierrette ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Pierrette fait plusieurs fausses couches, ils perdent une fille de 2 ans. Alors ils vont en Italie voir un curé.
Si vous voulez que votre enfant survive, appelez-la Constantine, si c'est une fille. Ou Romeo, si c'est un garçon. D'accord?
Ce sera une fille. Et elle s'appellera donc, de ce drôle de prénom, Constantine. 3e génération. Dans les années 70, son père, Attilio, achète ses terres. De métayer, il devient propriétaire, c'est important. Et puis il tombe malade. Et du coup, en 1981, c'est la 3e génération, Constantine et son mari, Jean-Louis, qui reprennent la ferme en main. 1 an plus tard, en 1982, naît en principe la 4e génération. David, héritier de cette longue histoire. C'est lui, mon héros d'aujourd'hui. Avait-il d'autre choix que de continuer, coûte que coûte? À l'école de Garrigues, David n'est pas premier de la classe, loin de là. En CP, l'instituteur fait venir ses parents.
« Je crois que c'est bien que vous ayez une exploitation. Il pourra toujours devenir agriculteur. »
Manière de dire, faute de mieux. Mais David, de toute façon, à 5 ans, c'est ça qu'il a dans la tête. Le soir, quand il rentre, il va droit à l'étable. Son grand-père Attilio est en train de traire. Et sa grand-mère Pierrette installe 2 tabourets et elle lui apprend à lire dans l'étable. Arrivé en 3e, voilà David devant le conseiller d'orientation. Alors David, que font tes parents? Ils sont agriculteurs. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, je veux être paysan. Ah bon? J'ai remarqué que t'as de bonnes notes en musique. En batterie, t'es premier en batterie. T'as du talent. Oui, mais moi, je veux être paysan. Est-ce que je peux arrêter après la 3e? Oui, mais c'est quand même mieux d'avoir un CAP. Et là, la mère intervient. On a discuté avec son père et ses grands-parents. Nous, on veut absolument pas qu'ils reprennent la ferme, hein. Ah, ça non. Et donc, on va l'inscrire en pensionnat à Carmo, à mécanique. Il sera pas agriculteur, mais il pourra toujours nous réparer les tracteurs. » Les parents ont pris dans la figure la chute du prix du lait, l'instauration des quotas laitiers. C'est dur. Ils ne veulent pas de ça pour leur fils. Et donc David se retrouve en CAP AMM, agent de maintenance en mécanique. En internat, à 1 heure de route de chez lui. Et il a son CAP. Et il bifurque vers une première d'adaptation. Et les profs l'encouragent. Vas-y David, fais tes études là-dedans, tu es un mordu de mécanique, t'as ça dans les veines. Et donc ce sera un bac techno, section STI, et ensuite un DUT en génie mécanique, puis une licence. Et en 2004, David devient professeur de mécanique, très loin du destin qu'il s'était tracé petit. C'est une fille qui va le ramener vers son destin, vers la ferme, vers la lignée. Pendant ses études, David, qui est plutôt beau gosse et par ailleurs extraverti, dragueur à l'italienne, a pas mal papillonné. Il a pris du bon temps. Il est devenu un rat des villes. C'est un autre monde. Et puis un jour, un de ses copains du Tarn lui dit « Dis David, faudrait que je te présente la sœur de ma femme. Laetitia, elle s'appelle. Oh, tu vas voir. Elle est blonde, elle a les cheveux longs, un sourire terrible. Je pense qu'elle est faite pour toi. » Ok. Il veut bien la rencontrer. Quand il la voit, waouh! Des jambes interminables, des cheveux dorés. Sauf qu'elle, elle veut du sérieux. Et lui, un coup d'un soir. Et donc ils en restent là. Ils se croisent de temps en temps. Son copain le relance. C'est dommage, hein, David, hein? Laetitia, elle a un copain maintenant. T'as raté le coche. Et puis un jour, à la fête à Lavore, son grand-père Attilio fait la connaissance de Laetitia. David, tu cherches des filles? T'en as une qui t'attend. Elle a des vaches, elle a des terres, elle est comme toi, et elle est faite pour toi. Bref, je vous la fais courte, le soir du réveillon 2003, emballé, c'est pesé. Et après, chacun reprend sa vie. Lui travaille au lycée agricole de Lavore, et il donne un coup de main à la ferme de ses parents. Et elle travaille à la cuisine de l'hôpital de Gaillac, et elle donne aussi un coup de main à la ferme de ses parents. Au bout d'un moment, David, ça lui vient comme une évidence. Elle, fille d'agriculteur, elle sait. Ses parents ont des vaches. Ils font du fromage pour eux. Elle a eu un temps l'idée d'aller vendre ses fromages sur les marchés. Le circuit court, la vente directe. Ils sont raccord là-dessus. C'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Ils se marient à Garrigue. Le 9 août 2008, les tatis, les tontons et les cousins italiens sont venus.
Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras.
En tête du cortège nuptial, un tracteur. Et sur la fourche, le père a aménagé une plateforme et posé 2 chaises, sur lesquelles arrivent Laetitia et son papa. Deux ans après le mariage, Laetitia est enceinte. David un jour l'accompagne à un cours de préparation à l'accouchement. La sage-femme le trouve peu impliqué. Et lui fait le mariole. Au moins, je fais 40 vélages par an. Alors l'accouchement, vous considérez votre femme comme une vache? Non, je suis amoureux. Mais qu'est-ce que vous croyez m'apprendre? Il est comme ça, David. Grande gueule. Et ce sera un fils, Giovanni. Sa mère. Tu l'appelais Giovanni? Comme Jean, quoi. Non, je l'appelais Giovanni. Mais enfin, David, on est en France. On n'est pas en Italie. Moi, je l'appellerai Jean. Et le finira par l'appeler Giovanni. Au lycée agricole de Lavore, David est directeur d'exploitation. Il a un bon salaire, il a une voiture, il a un logement de fonction, une secrétaire et un comptable. Le week-end, il fait la fête, il va en vacances au ski. Un jour, Laetitia lui demande « Tu es vraiment heureux ? T'aimes ce que tu fais ?» Oui, il est heureux. Mais ses parents sont en train d'arrêter l'élevage. Son père chiale parce qu'il n'arrive pas à boucler les fins de mois. Ils sont sur le point de vendre l'exploitation. Alors Laetitia le pousse dans ses retranchements. Tu as conscience que tu gagnes le salaire de deux réunis et que le travail de tes parents, c'est l'esclavage. Tu as une situation privilégiée. Tu peux avoir des congés. Je sais. Mais si je m'écoutais, je reprendrais la ferme. Et là, silence. Et Laetitia qui dit « Eh bien, si c'est vraiment ce que tu veux, eh bien, vas-y, je te suis. » Et c'est elle, Laetitia, qui va l'annoncer à ses parents, à lui. Leur fils va quitter un poste de fonctionnaire pour prendre leur suite. Il refuse. C'est non, c'est trop dur. Il ne lui parle pas pendant 6 mois. C'est le grand-père Attilio qui finit par arranger les bidons. Mais même au village, les gens ne comprennent pas. Ils l'appellent l'Indien, celui qui, parce qu'il a des diplômes, pense connaître l'agriculture. Mais David, il a son idée. Certes, il n'a que 21 hectares, là où il en faudrait 200 pour vivre. Mais il pense qu'il faut en finir avec le système productiviste, hérité de l'après-guerre. Laetitia, voilà ce qu'on va faire. On va court-circuiter les intermédiaires. Les veaux, je les amène à l'abattoir. Je connais un boucher, il travaille à côté, il me fait la découpe. Et moi, je gère le conditionnement et la vente. Et à qui tu vas les vendre? Eh bien d'abord aux gens qu'on connaît. Aux copines de sa mère, par exemple. Et puis en porte-à-porte, avec le vieux C15 de son père. Et ça marche. Très vite, il ne peut plus répondre à la demande. Alors il commence à vendre aussi du bœuf. Et puis il se met à élever 4 ou 5 cochons, à faire de la charcuterie, et puis des brebis, et puis des poules. Et maintenant, il veut faire une boucherie-charcuterie, sur place, à la ferme. Il la construit. Il recrute un boucher. Le gars vient d'un supermarché, il ne sait pas découper les carcasses. C'est le grand-père Attilio qui lui apprend. Avec la ferme auberge, David et Laetitia reçoivent de plus en plus de groupes, de bus. Alors ils leur montrent un petit film, ils leur font faire le tour de la ferme en tracto-train, ils leur expliquent comment il fait. Alors là, maintenant, voilà le jardin, hein, où on cultive quelques légumes. Vous voyez qu'il y a de la paille au pied des tomates, ça c'est pour garder l'humidité. Et puis là, vous voyez le tas de fumier, là, on le récupère, et puis on l'étale. Et ça, c'est mon grand-père qui passe le motoculteur. Et à midi, il propose des repas pour les groupes. Et puis, des soirées à thème. Une soirée Claude François avec Alan, un sosie qui habite le village d'à côté, et des Claudettes. Une nouvelle aventure est sur les rails. Un jour, un habitant de Castres l'appelle.
Allô, bonjour. Voilà, je suis hypnotiseur et magicien. Je m'appelle Diagore. Je me disais que je pourrais peut-être faire un spectacle chez vous.
David le fait venir. Le type est un peu ringard. Depuis combien de temps vous n'avez pas exercé?
Je travaille un peu de temps en temps, à droite à gauche, de ci de là.
Il finit par avouer qu'il ne s'est pas produit depuis les années 90. Alors David lui propose de le tester dans la famille. Comme saint Thomas, les paysans ne croient que ce qu'ils voient. Alors il le fait venir à l'anniversaire du petit Giovanni. Et Diagore endort la belle-mère, et puis David lui-même. Et il se penche sur lui, et il dit au petit Giovanni.
Avec ton papa, on va s'amuser. Hein ? On va lui enlever le chiffre 8 de la tête. Voilà, j'ai le chiffre dans ma main, là, je le garde, je le mets dans ma poche, et maintenant, on réveille ton papa, et on lui demande de compter, d'accord ?
David se réveille et il se met à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Éclat de rire général. Et la mère. Et vous avez intérêt à lui redonner le 8, hein? Parce que c'est lui qui fait les papiers et les comptes. Les folies fermières ont trouvé leur magicien. David a entendu parler d'un transformiste de Toulouse. Il le fait venir. Le type arrive, il leur claque la bise, direct. Et David lui demande. « Tu te transformes en quoi ? En Johnny Hallyday ? » ?»« Ah non, non, pas du tout. Je me transforme en femme. Par exemple, en Céline Dion. »« Ok, ça peut m'intéresser. Mais bon, moi, je travaille avec des groupes d'agriculteurs. Hein. Moi, le transformisme, ça m'intrigue. Eux, ça risque de les secouer un peu quand même. Hein. Je sais pas du tout comment ils vont réagir. Hein. » Arrive le jour J. Les transformistes débarquent à deux. Et ils font tour à tour Céline Dion, Dalida, Edith Piaf. Ils sont parfaits. À un moment, ils descendent dans le public et ils se frottent aux gens. Et les papis sont contents parce qu'ils ne voient pas que ce sont des hommes. Ils le découvrent à la fin, sidérés, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Après le spectacle, un papy va voir l'artiste. « Oh là, vous, faut qu'on discute là. Vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette comédie. Vous, vous sentez une femme? Vous êtes pédé, quoi. Bon, que tu sois pédé, c'est pas trop mon problème. Je ne suis pas pédé, je suis homosexuel. Oui, des pédales, quoi. » David avait bien fait de prévenir son duo de transformistes. Mais le papy conclut. « Bon, en tout cas, merci. » Et j'avais pas pleuré depuis des années. Tu as réussi à me faire couler les larmes. Tu as réussi à faire pleurer 40 paysans. Ce soir, on dormira moins bête que quand on s'est levé ce matin, t'es. Mais un jour, David reçoit un coup de fil de la SACEM.
Monsieur Comet ? Bonjour. On a entendu dire que vous faisiez beaucoup de spectacles.
Beaucoup, beaucoup. On essaye de faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a.
Vous faites plus de 6 représentations par an ?
Ah ben oui.
Alors on va vous demander de devenir professionnel, monsieur. Il vous faut une formation, une licence d'entrepreneur de spectacle.
Allons bon. Il le fait. Il se retrouve au milieu de citadins, face à un formateur qui le prend pour un pétzouille. Vous voyez, monsieur Comet, c'est une formation très compliquée. On va parler juridique, fiscal, social, économie, rentabilité, sécurité, mise aux normes. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Et c'est quoi le problème ? Eh bien, il est possible que vous n'ayez pas d'examen. Il le prend pour un bouseux. Je vous préviens. Je ne sais pas qui l'aura cet examen. Mais moi, là, je vais finir numéro 1. Pendant une semaine, David reste à Toulouse. Laetitia s'occupe de la ferme, il bosse d'arrache-pied. Et il finit premier. Quelques semaines après, nouveau coup de fil. Un numéro parisien.
Monsieur Comet ? Bonjour, ministère de la Culture à l'appareil. Dites-moi, on travaille sur votre dossier, là. Votre établissement est une ferme auberge. Mais le fait que vous organisiez des spectacles nécessite une réaffectation.
Mais enfin, il n'y a aucune réaffectation. Je m'occupe d'une ferme auberge qui organise des soirées à thème, c'est tout.
Ah non, non. Moi, j'ai des cases, hein. Il faut que ça rentre dans une case. Vous êtes quoi ? Un auditorium ? Un théâtre ? Un bar musical ?
Eh bien non, rien de tout ça.
Donc on a un souci, hein. Je vais en parler à ma direction.
Le type rappelle.
Bien, monsieur Comet, on s'est renseigné au ministère de l'Agriculture. C'est compliqué, hein, pour créer une nouvelle case, il faudrait passer par une commission, une usine à gaz, pardonnez-moi l'expression. On peut vous inscrire en tant que assimilé cabaret.
Et c'est donc comme ça, finalement, que les Folies Fermières apparaissent au journal officiel comme un assimilé cabaret. Et du coup, un journaliste de la Dépêche du Midi débarque.
Bonjour monsieur. Il paraît que vous avez monté un cabaret à la ferme.
Et le gars fait un article. Et après ça enchaîne. La France Agricole, les petits journaux du coin, et puis un jour M6.
Allô ? Monsieur Comette ? Bonjour, c'est M6 à l'appareil. On aimerait faire un reportage sur vous. Une demi-heure.
Mais David comprend. Une demi-heure de tournage ? Mais c'est une demi-heure de film. M6 veut le suivre pendant une semaine. Et après c'est France 3, et puis le petit journal, et puis France 2 pour Sophie Davant, et puis TF1. Et du coup, les réservations explosent. Et après le spectacle, les gens achètent de la viande. David fait ses comptes. La ferme le mange 24-24, 7 jours sur 7. Et il perd de l'argent. La boucherie lui prend la moitié de la semaine et remet les compteurs à zéro. Le cabaret lui prend une journée et c'est là qu'il se paye. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ne garde que le cabaret ? Non, il perdrait son âme, il perdrait son lien avec la terre. Et si en plus le maire ne lui mettait pas des bâtons dans les roues ? David veut développer le cabaret, sans abandonner le reste. Et surtout pas les vaches. Les vaches, ça ne rapporte rien, mais c'est sa fierté. Il est le dernier paysan de Garrigues à avoir un élevage. Mais pour sauver la ferme, il n'y a qu'une solution. Faire agrandir son cabaret. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Dans ce village de 300 habitants, dans lequel les exploitations agricoles ferment les unes après les autres, dans ce village qui se meurt, le maire ne veut pas de cabaret. Il y a une vieille histoire là-dessous. Le maire est propriétaire du château qui jouxte la ferme familiale. Les ancêtres de David étaient les métayers de ce château. Mais depuis, le grand-père a racheté les terres. Mais la famille de David a un droit de passage sur les terres du château. Une servitude en bonne et due forme. Hein. Le maire a longtemps espéré qu'il lâcherait. Mais avec le cabaret, il s'accroche, ces diables de Rital. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que David sent les choses. Le maire lui met tous les bâtons qu'il peut dans les roues. Il commence par convoquer une commission de sécurité. David se met en conformité. Un officier des pompiers dit « Pour moi, l'établissement est conforme. » Mais le maire « Ah oui, mais la sécurité... » Mais en vérité, ça n'est plus le sujet. David a une idée. Il veut construire une nouvelle salle de spectacle et transformer la salle actuelle en espace de vente. Il a obtenu pour ça une subvention de la région de 40 000 euros. Avec cet argent, pour être arrangeant, il propose de faire un chemin empierré qui ne passera plus devant le château. Le maire lui dit « Et tes parents, ils useront toujours du droit de passage. » « Et mes parents, oui. Eux, ils vont pas faire un détour. Mais il n'y a qu'eux qui passeront sur ton chemin. » Eh bien, dans ces conditions, pas de permis de construire, pas de nouvelle salle. Le préfet dit à David, « Je vous suggère de déplacer votre projet dans une commune avoisinante. » David reste prostré, hébété. Le soir, en se couchant dans le lit, il en parle à Laetitia. « David, avec ce qu'on a là, on s'en sort, David. Tu peux pas lutter contre le préfet et le maire. Je te suis plus, David. » Il passe une nuit blanche. Le matin, il laisse une lettre pour Laetitia sur la table. Il monte dans sa voiture. Au passage, il attrape une corde et il prend la route d'Albi. Il est parti pour se pendre. Pour se pendre ! Et puis en route, il bifurque. Il prend la route de Paris. Il arrive aux alentours de 20h30. Il ne connaît personne à Paris. Sauf un journaliste de TF1 qui est venu filmer à la ferme récemment. Il l'appelle. L'autre l'accueille à bras ouverts. Et il prévient Laetitia. Parce qu'elle a lu la lettre, elle a prévenu les gendarmes. David est recherché. Et donc dans l'état dans lequel il est, il doit aller à la police pour leur dire « Tout va bien, je suis vivant ». Je n'ai pas le temps de vous raconter tout l'épisode suivant. Au commissariat du 8e arrondissement, à Paris, il est arrêté, figurez-vous. Parce que dans sa lettre d'adieu, il a proféré des menaces contre le maire et le préfet. Alors on le colle en détention. On l'envoie à l'hôpital psychiatrique. Heureusement, ça se termine bien. Il rentre à la ferme. Et tous ensemble, ils décident de commencer les travaux. Sans permis. Quelques jours plus tard, il tombe sur le maire, sur son terrain, qui est en train de prendre des photos.
« Je vois que vous avez commencé les terrassements. »
« Oui.
Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, tu vois, ce qui me rend fou, c'est que les herbes de Provence, elles viennent pas de Provence. Que le savon de Marseille, il vient pas de Marseille. Ça me troue le ventre, ça. Je vais me battre. Je veux que le veau du Lauragais soit du Lauragais. Que le Roquefort vienne de Roquefort. Que le vin de Gaillac reste à Gaillac. Et pour tout ça, tu vois, on va créer une salle de 300 places. Une fois par semaine, je ferai dîner les gens. Les clients seront servis par les producteurs en personne. Je vais agrandir mon cabaret pour faire autre chose que vivoter.
Sur son lit d'hôpital, quelque temps avant de mourir, le grand-père Attilio dit à David.
David, j'ai créé cette exploitation. Tes parents l'ont conservée. Tu dois la sauver. Tu dois la développer. C'est ta mission. Si tu restes un homme droit, les gens te suivront.
Le 9 septembre 2018, la commune de Garrigues, dans le Tarn, a refusé à David Comette son permis de construire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.